Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est la première émission de l'année 2019 sur les rapports entre médias et politiques comme il se doit, réalisée par Jean-Luc Arblat, préparée par Paul Lassène. Et nous ne vous donnerons pas les pronostics pour 2022 avec Xavier Bertrand, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Et si on en met 8, il y en a sûrement un à l'arrivée. Pas du tout. Nous allons plutôt parler de l'actualité de la semaine et quand même des perspectives de l'année 2019 avec Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Mais pour commencer, comme il se doit, un compte-loup, le compte-loup du lundi 17 décembre. 17 décembre dernier, c'est tout près et déjà très loin, écoutez.
Le cinquième samedi des Gilets jaunes vient à peine de se terminer et déjà, il lance un appel à manifester samedi prochain.
Non mais attendez, qu'est-ce qu'il y a encore? Ils sont toujours pas contents les Gilets jaunes.
Emmanuel Macron, bonjour. Alors, oui, David Doucan nous en parlait, tout le monde ne touchera pas les 100 euros promis. À ça, s'ajoute la colère des maires ruraux.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les ruraux.
Et les lycéens.
Et les lycéens. Ok, bon écoutez, je refais une annonce alors.
Allez-y.
Mes chers compatriotes, j'ai réentendu votre colère. Alors, la prime de ces 100 euros, ce ne sera pas en février, mais dès fin janvier. Je vous fais donc gagner 8 jours. Et ce n'est pas fini. Pour les ruraux, je rajoute moins 10%, mesdames, messieurs, sur les tracteurs. L'intégrale en DVD de l'amour est dans le pré. Et également une chèvre gonflable pour faire l'amour même en hiver. Et ce n'est pas fini. Pour les lisses, je rajoute une bouteille de Biactol gratuite pour les gilets jaunes et les boutons blancs. Également, pour Nikos Elegas, un album de True for Free. Le calendrier de Clara Morgan, l'album des rappeurs nains Big Flo et Oli et des photos érotiques pour vous de Julie, de Céline, de Wendy, toute l'équipe, ainsi qu'une photo nue de David Biquet, pardonnez-moi, sur un capot de Lexus silencieux. C'est dans l'édition bonus du livre de Nikos, l'épreuve du temps, oui l'épreuve du temps, 32 euros seulement, édition La Martinière, une idée de cadeau parfaite pour les fêtes.
Donc, monsieur le Président qui fait la pub pour votre livre, Nikos.
Merci, monsieur le Président.
Ça arrive.
C'était donc les cadeaux de Noël d'Emmanuel Macron, revus par Nicolas Canteloup. Alors, venons-en donc non plus aux cadeaux de Noël, mais aux vœux. Le président de la République a présenté des vœux de façon assez inédite dans la forme, si on commence par la forme, Alexis Brézé. Ce matin même, après d'autres, Catherine Ney, sur cette antenne, soulignait la fermeté du discours, mais aussi le fait qu'il était là, debout, le teint fort et pas épuisé et déprimé comme la fois précédente. Vous avez eu la même impression?
Oui, ça fait penser à la chanson de Michel Berger, enfin de France Gall et Michel Berger qui était, il joue du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Bon, je ne pense pas que ce soit quand même une transgression absolument majeure, cette affaire d'être debout. Moi, j'ai trouvé que sur la forme, il avait été quand même très long, 17 minutes. Moi, je me souviens de l'époque où on disait, le soir du réveillon, faut pas embêter les Français, ils ouvrent leurs huîtres, ils mettent le couvert. C'était 5-6 minutes, bonne année, bonne santé, les enfants, les vieux, les militaires.
Je suis pas allé vérifier, mais de mémoire, je crois que le record, c'est De Gaulle qui, une fois, a fait 18 minutes.
Alors, voilà. Mais depuis, il y avait cette espèce de... En gros, c'était une formalité de convenance, et puis on n'en faisait pas des...
On n'est pas exactement dans une fin d'année normale, voilà, Alexis Brézé.
Entendu. Alors, donc, venons-en au fond, et c'est le fond qui compte. C'est vrai, et ce que vous disiez, Catherine Ney l'a remarqué, c'est vrai que là on sent qu'il y avait dans ses voeux comme une volonté finalement de corriger par une fermeté, une certaine intransigeance, ce qu'il y avait pu d'avoir d'indulgence et de bienveillance vis-à-vis des Gilets jaunes dans l'intervention du 10 décembre. À l'époque, il s'agissait d'entendre la colère, de comprendre, et là on avait le porte-voix d'une foule haineuse. Bon,
attendez, je vous arrête une seconde. Parce que c'est comme ça que fonctionne la média politique, finalement. Vous dites que les vœux étaient très longs, ils étaient très longs. Sur le fond, il y avait beaucoup de choses. Et par exemple, il y avait toute une première partie sur la colère. Sur la colère, sur son bien fondé, sur cette colère dit une chose à mes yeux, nous ne sommes pas résignés, ça c'était la chute. Mais colère contre la mondialisation incompréhensible, colère contre les injustices, colère contre un système administratif trop complexe, colère contre des changements qui nous font douter de notre identité. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez important là-dessus. Mais il y a une phrase. Que dis-je une phrase ? Deux mots. Foule et neuf.
Eh oui.
et on ne retient que ces deux mots. Alors, est-ce que c'est normal d'abord ça ? Est-ce que c'est normal qu'on fonctionne comme ça quand un président de la République fait un discours de 18 minutes, qu'il a un long premier point sur la colère, un second sur les grands bouleversements que nous sommes en train de vivre, un troisième sur le débat national.
Sur les réformes, oui, on va y venir.
Etc. Mais on retient, parce qu'il a mis foule haineuse.
Mais ça, c'est la loi de la communication, finalement. Depuis que le monde est monde, dans un message, on ne retient jamais la totalité, ni la subtilité, ni les chatoiements de la rhétorique. On retient souvent une formule. Et quand on construit des vœux, on a ça en tête. Et l'expression foule haineuse est tellement forte que c'était évident que c'était ça qui allait rester. Bon, et du coup, ça donne quand même le sentiment de passer d'une caricature à l'autre. Un coup, on dit ils sont très gentils, puis le lendemain, ils sont très méchants. Peut-être que c'est faute d'analyse de fond de ce phénomène des gilets jaunes qu'on passe d'une caricature à l'autre.
Sauf qu'on pourrait soutenir qu'on est passé des gentils aux méchants. Parce que quand il parle d'une foule haineuse, il l'explique, il justifie. Il dit qu'on a entendu l'inacceptable. Il dit qu'on a entendu... c'est la phrase exacte, c'est d'une foule haineuse qui s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels.
C'est évident. Et c'est évident que dans
Parce que c'est... C'est tellement réducteur. Je m'arrête parce que foule haineuse tout court... Du coup, il y a l'interprétation. Maintenant, il vient cogner comme une brute sur les gilets jaunes, alors qu'avant, il les comprenait. Foule haineuse qui s'en prend aux étrangers, journalistes, homosexuels, juifs, etc. C'est aujourd'hui des gilets jaunes, pas tous, des gilets jaunes radicalisés. Ceux qui ont le plus tendance à continuer, ce sont des gens qui tiennent des propos inacceptable. C'est pas exactement la même chose.
Vous avez raison, ça n'est pas la même chose. Et c'est vrai que de toute façon, il y a eu une évolution dans ce déroulement du mouvement des Gilets jaunes et qu'entre les thématiques des débuts, les thématiques de la fin, les mots d'ordre du début, les mots d'ordre de la fin, avec ce moment sans doute de bascule qui sont les incidents absolument scandaleux et violents à l'Arc de Triomphe, c'est vrai qu'il y a eu une évolution. Mais c'est vrai aussi que entre le discours du 10 décembre, qui est un discours de contrition, de mea culpa, et le discours des vœux, il y a une évolution dans le discours du président de la République. On ne peut pas le nier.
Mais vous dites, attendez, mais vous, ou je ne comprends pas, vous êtes contradictoire, Alexis Brézier. Vous dites, il y a une évolution dans le mouvement, il y a une évolution dans le discours du président. Mais s'il y a une évolution dans le mouvement, c'est normal qu'il y ait une évolution dans le discours du président.
Je dis juste que de la part des politiques, et il ne s'agit pas uniquement de Macron, souvent la caricature remplace l'analyse. Je pense que ce mouvement des Gilets jaunes mérite une analyse profonde de l'évolution sur la longue période de la sociologie française et au fond, le mouvement de paupérisation des classes moyennes, inférieures, etc. Et que dire un coup leur colère est juste et puis de dire 15 jours plus tard c'est une foule haineuse ou les porte-paroles d'une foule haineuse, on prête le flanc à la critique du procès en caricature. Je dis rien de plus que ça. Et j'ajoute...
Après avoir dit que le mouvement avait beaucoup évolué.
Mais j'ajoute qu'il y a quelque chose d'important qui là me paraît absolument bienvenu dans le discours de Macron. C'est la partie, vous l'avez dit, sur le grand débat, sur les réformes. Où là, il dit il faut continuer les réformes. Et il a raison. Rien ne serait plus catastrophique et rien ne serait plus dramatique que pendant 3 ans, il ne se passe plus rien dans ce pays sous prétexte qu'il y a eu les gilets jaunes. Et donc quand il dit on va faire la réforme des retraites, l'assurance chômage, la fonction publique, il a raison.
Et il pourra le faire ?
Alors voilà, la question elle est là.
La question est là. De la poser alors.
Eh bien vous avez raison de la poser. J'avoue que d'abord, personne ne peut répondre, ni vous ni moi.
Parfait.
Moi, je me pose quand même...
Soyons brefs alors, si on ne peut pas répondre.
Non, on va quand même essayer... ne soyez pas vous-même caricatural, Olivier. On peut quand même essayer un tout petit peu d'appréhender les choses. Moi, je me pose des questions sur la façon dont il va se dépatouiller de ce grand débat. Le grand débat, on voit très bien l'utilité, ça permet de calmer le jeu, de dire aux gens arrêtez, on parle, et après tout, c'est très bien.
Et exprimez-vous, calmez-vous.
La question, c'est comment on fait après ? Parce qu'une fois que les gens sont exprimés, il faut en tirer des leçons. Et on ne sait pas ce qui va se dire et comment ça va se passer dans les mairies, les préfectures, etc. Mais sans être grand clair, on peut quand même prédire qu'il n'y aura pas des hordes de citoyens qui vont exiger la retraite à points pour finalement travailler une année de plus, qui vont exiger la réforme de l'assurance chômage pour que les conditions d'indemnisation du chômage soient plus difficiles, ou qui vont exiger qu'on diminue le nombre de fonctionnaires. Donc, Macron va se trouver dans une situation très difficile de devoir mettre en œuvre des réformes qui sont celles qu'il souhaite et qui, pour un certain nombre, me paraissent absolument nécessaires, sachant qu'aucune de ces réformes n'aura été demandée dans le grand débat. Et il y a pire, c'est que sans doute un certain nombre de réformes qui vont d'exigences, de demandes qui vont être exprimées lors de ce grand débat. Alors, pareil, on ne sait pas, mais enfin, il est possible quand même qu'on nous parle du référendum d'initiative citoyenne, que certains demandent le rétablissement de l'ISF ou l'augmentation du SMIC. Ça, il ne le fera pas. C'est-à-dire qu'après le grand débat, il va dire aux gens, ce que vous avez demandé, je ne veux pas le faire, et je pense qu'il a raison de ne pas le faire. Et ce que je veux faire, je vous ne l'avais pas demandé.
C'était les prédictions d'Alexis Brézé sur la suite du grand débat. Donc, chers auditeurs, nous sommes le 5 janvier et Alexis Brézé vous a déjà dit fin mars ce qui allait se passer. Formidable Mediapolis. On va continuer à lui en faire dire davantage juste après une pause.
Comme tous les samedis, vous retrouvez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Et Olivier, vous recevez ce 5 janvier Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro.
Absolument. Alors, aujourd'hui, on verra ce qu'il en est ce soir. Il n'est pas exclu que le reflux du mouvement se poursuive. Et dans le fond, depuis l'acte 3, chaque acte suivant a été, au moins en termes d'ampleur de la mobilisation, un peu moins que le samedi qui précédait. Est-ce que ça veut dire que le mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui, est en train de s'effilocher dans sa forme actuelle ? Et question subsidiaire, mais qui va peut-être avec, est-ce que le gouvernement a raison de vouloir imposer le retour à l'ordre et notamment l'évacuation des ronds-points ? Alexis
oui.
Brézé.
Oui et oui.
Bon. Un peu plus.
Vous en voulez davantage ? Tout à l'heure, vous reprochiez d'être trop long. Oui, et oui, bien sûr, oui, on sent bien qu'on est arrivé au bout de quelque chose dans cette mobilisation des Gilets jaunes. Et oui, évidemment, il faut rétablir l'ordre, il fallait rétablir l'ordre, tout ça ne pouvait plus durer. Les conséquences politiques, économiques, sociales de cette affaire sont absolument désastreuses. Reste deux choses. D'abord, il faut, dans la gestion de cette décrue, oui. Il ne faut pas commettre de maladresse.
Oui, il faut faire dans la dentelle.
Et c'est très subtil. Oui, il faut accompagner un mouvement de décrue.
Alors, quelle erreur a été commise, par exemple ?
Je pense, par exemple, que la garde à vue d'Éric Drouet, qui n'a absolument rien de dramatique, qui, d'un point de vue juridique, est assez justifié.
Oui.
Il a appelé à une manifestation sur Facebook. Il nous raconte qu'il est allé emmener des amis à dîner. C'était une blague. Et donc, il y avait des motifs juridiques pour le mettre en garde à vue, ce qui, après tout, il n'y a pas mort d'homme. Je pense que d'un point de vue politique, c'est quand même, et c'était, et on l'a senti depuis deux jours, prendre le risque de l'ériger en martyr, de remettre de lui sur le feu à un moment où le feu est en train tout doucement de s'éteindre.
Donc, regardez comme c'est compliqué de gouverner.
C'est compliqué,
c'est-à-dire
vous avez raison.
Quand un pouvoir politique décide de mettre en garde à vue, puis de renvoyer devant la justice... un des leaders les plus extrêmes, qui a appelé à des formes d'insurrection, qui a appelé à un moment donné, même s'il a fait marche arrière devant le tollé, à aller s'emparer de l'Élysée. Que le directeur d'un grand journal de la droite éclairée reproche au pouvoir politique d'y aller un peu trop fort. Bon, je me disais, évidemment, si c'était Laurent Geoffrin ce matin, je comprendrais. Mais Alexis Brézé, je me dis...
Juriste comme vous dise il faut mettre quelqu'un au trou parce que 15 jours plus tôt, il a fait des déclarations effectivement scandaleuses, c'est aussi quelque chose qui interroge.
Il a été mis en garde à vue, puis libéré, participation à l'organisation d'une manifestation.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument, et on sent bien que le mouvement est en train d'atterrir dans sa forme actuelle, il faudra revenir sur ce « dans sa forme actuelle », est en train d'atterrir, et donc il faut accompagner doucement cet atterrissage sans mettre de l'huile sur le feu. Moi, ce qui m'a frappé, je ne sais pas si vous avez vu, on a publié dans Figaro un sondage fait par Odoxa sur est-ce que vous êtes pour que le mouvement se poursuive ou non.
Oui.
Et ce qui est frappant, c'est qu'après X semaines, après les affaires absolument scandaleuses de l'Arc de Triomphe, après les concessions considérables qui ont été faites, après les discours à répétition du président de la République, il y a encore 55% des Français qui disent on souhaite que le mouvement se poursuive.
Et un autre mettait 49, mais peu
bon,
importe.
Bon, peu importe. Mais c'est quand même frappant. C'est quand même très étonnant. Ça veut dire, oui, les choses ont bougé. Au début du mouvement, c'était 80-85%. Qui était pour ce mouvement et qui le soutenait. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, il y en a encore une petite moitié ou grosse moitié des Français qui continuent moralement, politiquement, non pas de participer à ce mouvement, mais de le soutenir.
Ça je veux mettre de l'eau à votre moulin. Je trouvais que la formule mouvement poursuivre ou s'arrêter, poursuivre, c'est vague, parce que ça englobe dans d'autres formes, etc. Et puis j'ai été, en bon lecteur du Figaro, et donc ça a regardé dans le détail, et la question, elle dit bien ces actions, entre parenthèses, blocage manif. Donc mon interprétation qui aurait atténué le poids de ceux qui veulent que le mouvement continue, la première interprétation que j'envisageais n'est pas la bonne. Il y a en effet cette chose assez extraordinaire au sens littéral des mots, que malgré les violences d'une part, malgré les concessions, vous venez de le dire, et puis malgré l'épuisement, quoi, le acte 8, c'est ça, il y a encore cette majorité. Comment vous l'expliquez?
Alors, pour l'expliquer, sans doute une des parties de l'explication réside dans l'analyse fine de ces 50% ou 55% qui soutiennent. Et donc ça l'a fait, et c'est passionnant. C'est-à-dire qu'elle est totalement corrélée aux revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au début du mouvement, il y avait une partie de la France aisée, CSP+, puisque 80% des Français le soutenaient, qui soutenaient ce mouvement, des retraités qui soutenaient ce mouvement, des gens de droite qui soutenaient ce mouvement, de la droite traditionnelle, classique. Aujourd'hui, quand on regarde, le critère de revenu est déterminant. C'est-à-dire que plus on est pauvre, plus on soutient la poursuite du mouvement, plus on est riche ou moins on est pauvre, plus on est aisé, plus on est contre.
Avant, c'était interclassiste, maintenant
la lutte des classes. On a une espèce de lutte des classes. Au fond, si on veut raisonner sur ce que révèle ce phénomène et sur ses conséquences à long terme, pour moi, c'est ça l'enseignement fondamental.
Oui.
C'est qu'il est en train de se réveiller dans ce pays quelque chose qui n'avait jamais disparu, quelque chose qui a toujours été souterrain, quelque chose qui est profondément ancré dans la culture française. C'est cette lutte des classes. Et c'est les Gilets jaunes, ça a été l'irruption ou le retour de la lutte des classes, de la violence de classe, parfois de la haine de classe, dans l'espace politique français. C'est quelque chose qui, à mon avis, c'est le vrai enseignement, c'est quelque chose qui, dans les années qui viennent, va être absolument fondamental et déterminant.
Et dans le fond, c'est très intéressant ce que vous nous dites, et dans le fond, pour comprendre avec un trait d'humour cette évolution dans les soutiens, ce passage de l'interclassisme dans le soutien à la lutte des classes, ça me fait penser aux mots d'un grand patron qui, quand il était jeune, était militant de la gauche-gauche du Parti Socialiste et qui disait « La lutte des classes, j'y crois toujours, j'ai seulement changé de côté. » Voilà, une partie, ils y croient toujours, mais ils ont juste changé de côté. Alors, à qui est-ce que, Alexis Brézé, à qui est-ce que tout ça profite et pourquoi? Vous nous le dites dans quelques instants.
Jusqu'à 11h dans Mediapolis, vous recevez Olivier Duhamel, le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézé.
Alors Alexis Brézé, avant d'en venir à ce sur quoi on vous attend, c'est-à-dire qui en profite et pourquoi, vous vouliez rajouter un mot sur les causes de cette évolution classiste de cette évolution sociale importante soutien au mouvement.
C'est comme tout le paradoxe de ce président, de ce gouvernement, de cette majorité qui avait été élue sur un projet de réconciliation, de bienveillance, d'apaisement, d'avoir réveillé ces démons, mais qui ont toujours existé. Et donc la question, c'est celle du comment, du pourquoi tout ça s'est passé. Il y a évidemment, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, les fautes psychologiques ou de comportement de Macron, tout le monde en a parlé, alors on dit les manques d'expérience, l'immaturité, on le sait tout ça. Il y a, je crois aussi, un problème de politique économique, c'est le fait de ne pas s'être attaqué aux dépenses tout de suite. Quand on ne s'attaque pas aux dépenses, eh ben on ne peut pas baisser les impôts, donc on baisse les impôts des uns, on augmente les taxes des autres, et ça énerve tout le monde. C'est le deuxième point. Mais le point, la question que je me pose, et qui me paraît la plus intéressante, c'est au fond, est-ce que ce réveil des conflits de classe n'est pas la conséquence ou la traduction du projet fondamental macronien qui est de dépasser le clivage droite-gauche? Alors je sais, c'est pas la mode, le clivage droite-gauche est très décrié, et c'est vrai qu'il est parfois exaspérant, caricatural, ces oppositions de façade. Mais n'empêche, le clivage droite-gauche a plein de défauts, mais je pense qu'il a un vrai mérite, c'est de canaliser la violence sociale, de donner un débouché idéologique à un conflit qui est un conflit sociologique. Au fond, quand il n'y a plus la droite contre la gauche, quand au pouvoir il y a des gens de droite et de gauche qui pensent qu'ils sont les plus malins, les plus intelligents, les plus instruits, qu'est-ce qui remplace le clivage droite-gauche? C'est le clivage des riches contre les pauvres ou des pauvres contre les riches. Et quand une minorité de riches gouverne et qu'une majorité de pauvres est exclue du pouvoir, ça donne ce qu'on a avec les gilets jaunes, des explosions sociales. Donc,
oui, non, je partage absolument avec vous l'idée que lorsque le clivage droite-gauche fonctionne bien c'est une expression et un adoucisseur de la lutte des classes. C'est une expression et un adoucisseur de la lutte. C'est pas que la faute à Macron.
Non, bien sûr que non.
Non, mais attendez, oh là là, mais je dis, autrefois, le parti. Il y avait un parti communiste puissant, il y avait un parti socialiste qui avait une base populaire très forte, et sous tout ça a disparu bien avant Macron.
C'est d'abord la faute de la droite et de la gauche qui, d'abord la gauche puis la droite, ont abandonné les classes populaires et qui n'ont eu aucun résultat. Donc Macron n'est que le réceptacle de tout ça. Le problème, c'est qu'il a cru qu'il était la solution de ce problème, alors qu'il en est un des symptômes. Et aujourd'hui, cette violence de classe qu'il a porté contre la droite et la gauche, aujourd'hui, le revient dans la figure.
Alors le problème, c'est qu'il n'est pas exclu qu'une des personnes qui en profite le mieux soit quelqu'un qui, à sa façon, récuse aussi le clivage droite-gauche. Écoutez notre éditorialiste, je veux dire l'éditorialiste politique d'Europe 1, un des, Michaël Darmon, le 4 janvier.
Dans quelques jours, elle devrait confirmer Marine Le Pen, Jordan Bardella, le jeune porte-parole du parti, comme tête de liste pour les européennes du mois de mai. Un coup tactique, c'est une promotion pour la jeune garde. Un coup stratégique, parce que c'est elle qui mènera la campagne. En réalité, elle qui devra faire les émissions importantes selon son principe. Et il reste que Marine Le Pen, qui a tourné la page du mauvais débat entre les deux tours de 2017, a retrouvé du punch à la tête d'un parti qui est à genoux financièrement, mais qui doit rassurer également des pans entiers de l'électorat. Il faut savoir, par exemple, que les retraités sont réfractaires aux thèses du Front National. Ancrée dans sa circonscription, elle se prépare à être la candidate pour 2022. Mais en 2019, c'est bien un effet d'optique auquel elle nous prépare. Marine Le Pen va accélérer, mais pour aller moins loin.
Alors d'abord, si vous permettez, juste une observation médiapolitique. Autrefois, aux élections européennes, était candidat pour le Parti communiste Georges Marchais, pour le Parti Socialiste, François Mitterrand, puis Laurent Fabius, la droite, Nicolas Sarkozy. Autrement dit, et avant lui, Jacques Chirac, pour le centre-droit, Valéry Giscard d'Estaing. Autrement dit, et Simone Veil, les grands leaders dirigeaient la liste, la campagne, passaient quelques semaines, sauf exception, à Bruxelles et Strasbourg, et puis démissionnait et revenait en France. Aujourd'hui, et ça c'est quand même un signe de transformation de la média politique et de compréhension du phénomène par Marine Le Pen, totalement inutile de se mettre tête de liste et d'aller s'enterrer à Strasbourg ou à Bruxelles, ajouterait-il, ou elle secrètement, je vais plutôt mettre en tête de liste quelqu'un d'un peu pas rival, quoi. Un troisième couteau. Et tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, ce n'est pas l'élection. Ce qui compte, c'est la campagne. Ce sont les médias et c'est moi qui vais la diriger. C'est quand même une sacrée médiatisation et dépolitisation des choses.
Mais ça n'est pas...
Ou autre forme de politisation.
Je dirais plus loin que vous, ça n'est pas que média politique. C'est politique au sens le plus général et noble du terme. C'est un signe des temps qui en dit long sur aussi l'affaiblissement du rêve ou de l'enjeu européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes politiques nationaux qui se souhaitent et se veulent un destin national ne sont plus prêts à prendre des risques politiques pour une cause dont ils estiment qu'elle ne vaut plus rien, en tout cas électoralement, qui est l'Europe. On n'a plus un grand leader qui veut prendre une liste européenne pour cette raison-là. Ça, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Il n'y a que des coups à prendre dans cette affaire d'Europe et aucun bénéfice à en tirer.
Alors que l'Europe est beaucoup plus dans les débats politiques qu'elle ne l'était autrefois. C'est quand même très très paradoxal. Et du coup, sur ce qui est en train de se fabriquer du côté des leaders, il y a quand même vraiment des questions absolument passionnantes à se poser dans quelques instants.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, et Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro.
Alexis Brézé, tout le monde s'accorde parce qu'il y a des indicateurs de sondage qui le montrent. parce que en flairant l'air du temps, on le sent, que la principale personnalité politique à laquelle ce mouvement profite s'appelle Marine Le Pen. J'ai une question très simple qui appelle une réponse forcément compliquée. Pourquoi ?
D'abord, parce qu'elle a été habile pendant toute cette séquence. Elle a bien joué la séquence, elle a accompagné le mouvement sans trop le récupérer évidemment, sans mettre trop évidemment de l'huile sur le feu. On pourrait faire ensuite le comparatif avec Mélenchon, elle a été maligne sur cette affaire-là.
Sur ce point, on peut dire presque que Mélenchon l'a servi.
Je pense que la façon dont Mélenchon a essayé à toute force de récupérer l'affaire, d'en faire des kilos, des tonnes, de ses déclarations d'amour à Drouet, tout ça, elle a fait pas ça, elle a même pas porté le gilet jaune. Donc ouais. Bon, elle a bien joué l'affaire. Bon, ça c'est une chose. Après, si vous me permettez de faire une restriction à l'analyse que vous venez de faire, vous dites tout le monde pense que ça lui profite. Oui, ça lui profite. Oui, elle est sortie du coma politique où l'avait plongé l'échec absolu de l'élection présidentielle, du débat de l'entre-deux-tours, etc.
Du débat, parce que l'échec absolu de l'élection, quand on fait non, le pas du résultat, qu'elle a fait...
Mais de l'échec symbolique. Mais c'est important, de l'échec symbolique du débat qui avait fait entendre qu'elle n'était finalement plus un débouché, une espérance politique. Et donc, elle a réussi. À contrario, on peut dire aussi que un an et demi de Macron ont réussi à réveiller... Marine Le Pen qui était totalement dans les choux. Ça, c'est un fait.
Alors, où est votre restriction ?
Pour autant, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle est bondie dans les intentions de vote. Et si on s'interroge sur le point de savoir si, est-ce qu'aujourd'hui elle incarne, est-ce qu'elle en est à nouveau une espérance politique ? Je n'en suis pas si sûr. On dit toujours, et c'est vrai, que le mouvement des Gilets jaunes s'est construit sur le rejet de la majorité du président, sur les rejets des partis classiques, la droite, la gauche, tout ça est vrai. Mais est-ce que dans une certaine mesure, il ne se construit pas aussi, sinon contre le Front National, du moins sur l'échec du Front National ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas parce que son électeur, ayant subi de plein fouet l'échec de 2017 et de se débarrasser, se sont dit « nous n'avons plus de débouchés politiques ». Donc, n'ayant plus de débouchés politiques, civiques, on va prendre un débouché physique qui est l'occupation. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans un certain électorat qui, désespéré de se dire « mais ça ne marchera jamais, on ne peut pas se faire entendre », va du coup prendre d'assaut les ronds-points.
J'ai une autre question alors. Parce que ce qu'on constate à la base dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y a des jonctions, des sympathies naissantes, spontanées, des rapprochements naturels entre ceux qui se sentent proches du Rassemblement National et ceux qui se sentent proches de la France Insoumise. Indépendamment même de cette histoire récup par récup, parce qu'il y a ce que font les leaders nationaux, et puis il y a la base des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche, qui vont là-dessus avec les autres. Ce n'est pas une histoire de récup. Ils se sentent dans ce mouvement, ils s'y sentent bien et ils se retrouvent ensemble. On constate que dans certains commentaires politiques d'événements, vous avez parfois Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon qui sont sur la même ligne. Quelqu'un disait même, prenez toutes les déclarations Rassemblement National et France Insoumise depuis 3 mois, mettez-les dans un pot, enlevez le nom de qui a déclaré quoi et ressortez les tickets et faites deviner qu'est-ce qui est de lui, qu'est-ce qui est d'elle, et ben vous aurez parfois du mal. Est-ce qu'est en train de naître, Alexis Brézé, quelque chose autrefois impensable, pour pas encore impensable, qui est advenu en mars-avril 2018 en Italie, alors que personne ne le pensait imaginable, à savoir un rapprochement par-delà toutes les différences entre un mouvement très à gauche et un mouvement très à droite.
On peut le craindre. Alors, il y a deux choses. Il y a la question des appareils et des représentants et la question des électorats. Du coup, pour ce qui est des électorats, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le nouveau clivage au fond de classe. Il y a un moment où les expériences sociales, l'expérience du vécu, réunissent des gens qui, politiquement, pouvaient penser des choses différentes. Au fond, c'est qu'il y a une France dans laquelle il y a des gens qui viennent de l'ordre de la gauche, qui aujourd'hui se sent exclus, déstabilisé par la mondialisation, écarté de toute perspective d'emploi, mais au-delà de progression sociale, déstabilisée dans ses certitudes culturelles, dans ses habitudes de vie, dans son mode de vie, inquiète pour ses enfants. Et puis il y a l'autre France, qui profite de la mondialisation, dont les enfants font des bons stages, les bonnes écoles, et qui est comme un poisson dans l'eau dans tout ça. Donc, la France, au fond d'en bas, cette France-là, oui, il y a des gens qui viennent de la droite et de la gauche, mais à partir du moment où on s'emploie ou s'efface de lui-même ce clivage droite-gauche, reste l'expérience sociale qui fait qu'elle parle plus fort que les clivages idéologiques. Après, il y a la question des leaders. Fait longtemps que Marine Le Pen cherche ça. Elle cherche à l'entendre.
Oui.
Et ça fait longtemps que Jean-Luc Mélenchon campe sur la frontière, mais lui, c'est un homme de la vieille gauche, vieille gauche, de la plus à gauche. Et donc lui, il n'ose pas franchir le pas. Avec notamment le point de clivage essentiel qui est la question de l'immigration.
Oui.
C'est-à-dire que le jour où les insoumis disent « il y a trop d'immigrés, on n'en peut plus, c'est plus possible », à ce moment-là, la jonction, elle se fait. Là, aujourd'hui, Mélenchon, campant sur le Rubicon, approchant parfois le Rubicon, ne veut pas franchir le pas parce que toute sa culture de gauche ne le supporterait pas. La question qu'on peut se poser, c'est demain, est-ce qu'un Ruffin, par exemple, ne serait pas lui capable de franchir ce pas-là, qui n'a pas le même ancrage historique que Mélenchon ?
Demain, un Ruffin, demande-t-il Alexis Brézé. Un Ruffin demain, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe à Pékin ? Dans un instant.
Le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézé, était ce samedi, Olivier Duhamel dans Mediapolis.
Oui, mon invité c'est Alexis Brézé, et c'est aussi à l'instant Xi Jinping. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une semaine chinoise. C'est la Chine vient de réaliser l'exploit du premier alunissage sur la face cachée de la Lune. Vous connaissez le proverbe chinois, hein, le sorcier montre le doigt avec le... Pardon,
non.
Le sage pointe avec son doigt à la Lune.
L'imbécile regarde le doigt.
Autre exemple, Xi Jinping a dit qu'il envisageait en aucun cas de renoncer à la réunification avec Taïwan, y compris par la force. Eh bien, pendant ce temps-là, à contre-courant, le très célèbre et inusable éditorialiste du Financial Times, du grand quotidien londonien, le FT, a écrit un édito en sens inverse. « The future might not belong to China », l'avenir n'appartient peut-être pas à la Chine. C'est Alice Baudry, directrice de la stratégie à l'Institut Montaigne, qui nous l'a signalé. La Chine a eu 4 décennies extrêmement impressionnantes. Mais faut-il en conclure que la Chine autocratique deviendra à coup sûr la puissance dominante du monde au cours des prochaines décennies ? Ma réponse, c'est celle de Martin Wolf, que je cite. Ma réponse est non, c'est un futur possible, pas certain. Et il ajoute, aujourd'hui, la concurrence politique et économique la plus acharnée se situe entre la Chine et les États-Unis. Parenthèse d'ailleurs, Trump vient de dire à Apple qu'ils avaient qu'à fabriquer leur iPhone aux États-Unis et pas en Chine. Martin Wolf poursuit. On dit que d'ici 2040, l'économie chinoise sera bien plus importante que celle des États-Unis, mais on pourrait se tromper en pensant cela. Capital Economics, une firme de recherche indépendante, affirme que la période de super performance stellaire de la Chine pourrait bientôt prendre fin. Alors, Alexis Brézé, vous êtes le roi de la prévision. Vous avez annoncé les problèmes qui allaient surgir à la fin du débat national. Maintenant, allez regarder encore plus loin, en 2040. La Chine ?
Je crois que je vais m'en tenir aux prévisions sur un horizon français qui déjà sont bien incertaines. Non, ce qui me paraît frappant dans ce papier de Martin Wolf, c'est d'une part qu'au passage, il valide l'offensive commerciale, de guerre commerciale de Trump finalement. Il dit ça a des effets, c'est-à-dire que les Chinois sont tellement dépendants de leur modèle, de leurs exportations, que finalement, la guerre commerciale qui est en train de leur mener Trump, dont tout le monde dit que c'est une folie, une absurdité, il dit ça peut avoir, avec d'autres facteurs, un effet sur la Chine. Bon, ça, je n'en sais rien. Ce qui me paraît frappant, en tout cas, dans son papier, c'est qu'il s'interroge, il dit peut-être que finalement les États-Unis vont prendre le dessus sur la Chine. Il dit puis il y a aussi l'Inde, ça c'est important. Ouais. Mais il y a un truc dont il est absolument sûr.
À chaque fois que Brésil peut caler un truc contre l'Europe.
Mais pas contre cette Europe-là, là c'est dramatique. Il dit l'Europe est promise à un lent déclin relatif. Ouais. Et c'est absolument tragique. Ça nous renvoie au sujet dont on parlait tout à l'heure. Moi je me réjouis. Personne ne peut se réjouir que l'Europe, quelle que soit sa forme d'organisation dont on peut discuter, soit promise à un lent déclin relatif et que l'avenir se joue entre les Chinois et les Américains. C'est pas une bonne nouvelle, ça.
Les États-Unis jouent au poker, la Chine joue au go et l'Europe ne joue pas. Et ça, c'est peut-être le, le fond du problème. Mais c'est pas, on n'est pas condamné à l'inexistence de l'Europe quand même, Alexis Brézé. On n'est pas condamné.
C'est quand même pas très bien parti. Il faut être honnête.
Il peut y avoir un début de prise de conscience.
Quand on voit les efforts, et notamment ce que Macron avait entrepris pour essayer de redonner un élan à tout ça, quand on voit que tout ça est en train de se briser sur des divergences d'intérêts nationaux, parce qu'aujourd'hui, les pays de l'Est de l'Europe n'ont pas les mêmes intérêts que les pays du Sud de l'Europe, les Allemands n'ont pas les mêmes intérêts que les Français, les Anglais sont en train de partir, les Italiens sont en train de faire bande à part. Je suis navré, franchement, je m'en réjouis pas, ça m'a l'air mal parti pour rivaliser avec votre ami Xi Jinping.
Arrêtez, nous sommes le 5 janvier, comment, et vous nous déprimez déjà. Allez, on va revenir en France vite dans quelques instants.
De 10h à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Et Olivier, votre invité ce matin est le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézé.
Oui, alors évidemment, il faut faire très attention dans le choix des sujets à ne pas prêter le flanc à la critique de parti pris, parce que vous avez pas mal d'auditeurs très très attentifs qui vous soupçonnent parfois même de façon exagérée. Donc, je me suis dit, impossible de ne pas parler, même si on commence à en avoir, impossible de ne pas parler de Benalla. Écoutez, Brice Hortefeux, c'était le 31 décembre sur Europe 1.
Les déclarations surprenantes de M. Benalla ce matin sont accablantes. Et parallèlement à cela, les réactions de l'Élysée sont à la fois successives, contradictoires, ambiguës et gênées. Certains parlent d'affaires d'État au minimum, et il s'agit d'une affaire dans l'État. Et souvenez-vous, État que le président Macron souhaitait tout à la fois impartial et exemplaire. Et aujourd'hui, chaque Français comprend qu'il n'est ni l'un ni l'autre.
Alors Alexis Brézé, une affaire dans l'État, une affaire d'État ou un feuilleton fâcheux mais pas plus important que ça ?
C'est une affaire invraisemblable. C'est une affaire dont on n'aurait jamais dû entendre parler si elle avait été traitée convenablement. C'est-à-dire, si le 2 mai, lendemain des événements du 1er mai, lorsque remonte l'information qu'un collaborateur subalterne du président a un peu molesté deux manifestants, il avait été viré, on n'en aurait jamais parlé. Et l'affaire était réglée. Parce que c'est pas une... Enfin, c'est pas le Rainbow Warrior, c'est pas les Irlandais de Vincennes, c'est un gars que personne ne connaît, qui a tort, et c'est très mal, secoue de manifestants. Donc c'était très simple. On aurait pu, au mois de juillet, lorsque l'affaire éclate au grand jour, pareil, couper les ponts définitivement, et c'était fini, on n'en parlait plus. Mais par une aberration, une succession hallucinante de demi-mesures, de maladresses, de dissimulations, on est en train de transformer... Je ne sais pas si c'est en affaire d'État, mais c'est en tout cas un feuilleton médiatico-politique qui est absolument désastreux quand on voit ce qui se passe dans ce pays. Et il faut dire que c'est quand même confondant. On vire ce gars-là, mais sans le virer, tout en le virant. On a coupé les ponts, mais on continue de le payer. On pose des scellés
donc
chez
c'est
lui.
Très, bon, d'accord, c'est
mais,
très
mais attendez, on lui retire son passeport oui. diplomatique, il l'a toujours. On rompt ses contacts et le président continue oui. de communiquer. Enfin, donc c'est normal que les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ?
D'accord. Mais sinon...
Ben sinon, en soi-même, elle n'a rien de grave. C'est la façon dont elle est gérée, dissimulée, embrouillée qui est inquiétante.
Alors, pour terminer, dans le fond, assez tôt dans cette émission, grâce à vous, Alexis Brézé, nous avons eu une belle prévision sur ce qui allait un problème qui allait surgir au printemps, à la fin, juste avant le début du printemps, à la fin de l'ainsi nommé Grand Débat National, qui est que quand tout serait remonté avec le tri dans chaque région quand même et des synthèses au niveau de chaque région et porté à la connaissance du pouvoir politique, eh ben, il faudrait bien quand même qu'il fasse quelque chose et qu'il ne puisse pas tout envoyer promener. Et là-dessus, il y a une proposition qui a émergé, qui est celle de faire des référendums en même temps, ce qu'on appelle un référendum à questions multiples, c'est-à-dire, en vérité, pour être clair, le même jour, peut-être éventuellement même le même jour que les européennes, 3-4 questions posées aux Français par référendum. Écoutez, le député La République En Marche de la Vienne, Sacha Houlier, qui a mis ça sur la place publique le 2 janvier sur LCI.
Je sais que c'est une piste qui est à l'étude, et une piste qui concerne les mesures que vous avez citées, à savoir, est-ce que oui ou non faut-il réduire le nombre de parlementaires ? Est-ce que oui ou non faut-il introduire une dose de proportionnelle ? Est-ce que oui ou non faut-il instaurer le vote blanc ? Est-ce que oui ou non il faut... instaurer un non-cumul des mandats. Eh bien, sur ces questions-là, moi, je fais partie de ceux qui estiment que si ces mesures sont plébiscitées par les Français, et je crois qu'elles le sont, eh bien, elles doivent pouvoir, ou en tout cas, on doit pouvoir se poser la question de dire, demandons-leur leur avis.
Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Brézé, directeur de la rédaction?
On voit bien l'objectif qui pourrait être poursuivi, qui est de, par cette grande votation, c'est d'abord de diminuer l'impact des élections européennes dont on peut penser qu'elles ne sont pas très bonnes pour le gouvernement, effectivement de donner une sortie, une expression démocratique après le truc des gilets jaunes. Mais ce que je pense, c'est que si les questions posées, c'est celles dont parle Sacha Houillet, c'est-à-dire cumul des mandats, vote blanc et un peu de proportionnel, ça va pas le faire. Ça va être vu comme une espèce de gigantesque enfumage. Parce que d'abord, ça, ce sont des propositions...
Faudrait qu'il soit quoi comme question?
Mais c'est ce que les, c'est ce que, parce que dans le débat, les gens vont pas demander ça. Ils vont dire quoi?
Ah,
ils vont dire.
Déjà, mais c'est. Mais c'est bah, Monsieur
parce
Irma.
Parce que oh, vous ne le savez pas, vous. Évidemment que vous le savez. Qu'est-ce qui les. Il y a un certain nombre de militants politiques qui vont prendre le truc en main et qui vont dire on veut le référendum d'initiative citoyenne, d'accord. On veut la suppression du Sénat, on veut voir la suppression du Premier ministre, on veut tout.
Il y en a peut-être aussi qui diront on veut la proportionnelle, on veut la réduction du nombre.
Oui, mais sauf qu'ils diront ça nous suffit pas. Ça ne nous suffit pas, puisque ça, vous l'aviez décidé avant.
La vérité... Mais c'est quoi la solution, mais, alors, monsieur
mais,
Irma?
Mais pas des faux référendums. Poser un référendum, poser une question à des gens parce qu'ils sont d'accord, c'est, franchement, c'est absurde.
Donc il faut leur poser une question sur quoi ils ne sont pas d'accord.
Le principe, d'aller au, au peuple, c'est de faire trancher par le peuple une question qui fait débat, vraiment. Le fait de mettre une dose de proportionnelle ou le cumul des mandats, tout le monde sait que tout le monde est d'accord. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les citoyens vont dire, mais vous fichez de nous, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, comme toujours, ils vont répondre non. Vous avez une très bonne formule que vous utilisez souvent, qui est celle de Woody Allen, qui est « la réponse est non, rappelez-moi qui est la question ». Ben, les gens vont dire « non, non, on se moque de nous, Macron, c'est non ». Moi, je pense que Macron devrait méditer comme l'exemple Renzi. C'était quand? C'était en 2016.
Oui.
Le référendum que fait Renzi, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est sur le rôle du Sénat, c'est sur le nombre de parlementaires.
Mais il y a qu'une question, c'est la différence.
Eh ben ouais, mais il y avait le nombre de parlementaires, le Sénat. Y avait
mais alors, sur quoi il faut le faire, le référendum?
Ben, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il faille faire un référendum.
D'accord. Parce que alors, les deux. Pas faire un référendum.
Comment?
Alors il faut quoi?
Mais il faut faire une, il faut se essayer de petit à petit de se réconcilier avec les Français et remettre en train remettre en chemin le train des réformes. Je reconnais que c'est
non,
pas
mais
facile.
Vous dites, attendez, mais... Alexis Brézé, là vous exagérez quand même, parce que d'un côté vous dites après ce grand débat, il faudra bien trouver quelque chose, une issue, une sortie politique. Si la sortie politique, c'est de dire, eh ben très bien, je maintiens mon cap avec ma réforme de l'assurance chômage et de la retraite.
Mais des...
Allez,
vous êtes marrant. Mais c'est précisément, je dis, il a pris un énorme risque avec ce grand débat. C'est le grand débat, c'est bien à court terme parce que ça calme le jeu, c'est utile. Mais à moyen terme, c'est il se met dans un piège.
Mais 68,
donc,
on en était
une
sorti...
fois qu'on est dans un piège, il n'y a plus de bonne solution. Il n'y a pas une bonne solution à tous les problèmes.
Une énorme concession sociale et une dissolution.
Et ben là, il en
là,
sortira. Et ben, il en sortira. Je vais vous dire, après la défaite des européennes, je pense qu'il n'a pas intérêt à faire un référendum parce qu'il peut se taper un non au référendum. Après la défaite des européennes, à ce moment-là, il faudra qu'il change totalement, qu'il change de Premier ministre, qu'il change d'équipe. Et là, il essaiera de remettre les compteurs à zéro après les européennes. Point barre. Mais je ne crois pas qu'un référendum sur ces questions-là, sur les questions sur lesquelles tout le monde sont d'accord, le réconcilie avec les Français. Au contraire.
Merci, c'était Alexis Brézé-Irma, directeur des rédactions.
C'est vous qui me posez des questions sur l'avenir, après vous me traitez de madame Irma.
Mais c'est un compliment, vos prévisions. Vous avez pris le risque de la prévision. On vous invitera pour vérifier si elles sont réalisées. En attendant, vous avez dit qu'il ne devait pas faire de référendum parce que le risque du non est trop élevé. Eh bien, cela avait été dit avant vous, parce que le peuple français est parfois comme une poupée qui dit toujours non. Merci Justine, merci à Alexis Brézé, merci à Paul Lassen qui a préparé l'émission, à Jean-Luc Arblad qui l'a réalisé et qui lui aurait aimé qu'on vous passe Dark Side of the Moon, qui est une autre chanson précurseur. Eh bien, vous pouvez aller l'écouter, mais surtout, vous pouvez écouter, faire écouter cette émission en podcast sur Europe 1.fr. C'est très facile et c'est très bien. À samedi prochain.